Saveur temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Vous êtes branchés sur la VOA. Merci Jacques Aristide avec vous dans 5 minutes environ. Votre magazine du vendredi soir, l'Amérique et vous. La vague de froid aux États-Unis. Qu'en pensent les Africains établis dans le pays ? Timothée de Langmaille fera le tour de la question avec ses invités tout à l'heure. Mais d'emblée, un condensé de l'actualité. Germain Katanga a été déclaré coupable de 4 chefs de crimes de guerre et un chef de crime contre l'humanité. La Cour pénale internationale a rendu son verdict ce vendredi. L'ex-chef de milice congolais était accusé notamment de complicité de meurtre et pillage. Il encourt une peine allant jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Elle sera fixée après le 24 mars, la date butoir pour le procureur et la défense de faire appel du verdict. Les réparations pour les victimes seront également connu prochainement. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la CPI, Fadi El Abdallah.
Ces crimes-là ont été commis le 24 février 2003 lors d'une attaque lancée contre le village de Bogoro, situé dans le district de l'Ituri en République démocratique du Congo. Il y avait d'autres charges également, mais qui ont été rejetées par la Chambre, considérant que les éléments de preuve présentés devant elle ne lui permettaient pas de se forger une conviction au-delà de toute doute raisonnable que pour les charges des 4 chefs de crimes de guerre et un chef de crime contre l'humanité. Alors, la Chambre a constaté qu'il y a eu des crimes de violence sexuelle et de viol, ainsi qu'une présence d'enfants soldats lors de l'attaque, mais elle n'a pas prouvé que les éléments de preuve lui permettaient de se forger donc une conviction.
Les hommes de loi de Katanga vont-ils interjeter appel ?
Pour le moment, nous n'avons pas de demande d'appel qui a été faite. Ils ont un certain délai pour interjeter appel, comme ils ont également un certain délai pour présenter leurs observations, comme déjà les observations du procureur et des représentants légaux des victimes, qui ont également un délai pour présenter des observations sur la question de la peine qui sera applicable.
Fadi El Abdallah de la CPI, jointe à la aux Pays-Bas. À Bangui, les habitants du 6e arrondissement ont barricadé l'avenue Semak pour protester contre le possible transfert dans le secteur d'un contingent d'ex-Séléka. La réaction du gouvernement n'a pas tardé. Le ministre de la Sécurité publique, Denis Wangao Kizimalé, a parlé de fausses rumeurs. Dans le nord-est du Mali, une dizaine de combattants d'Agmi ont été tués par des avions de combat et des hélicoptères français. C'est ce qu'a annoncé le ministre français de la Défense. Jean-Yves Le Drian affirme que l'opération a été menée dans la nuit de mardi à mercredi dans la vallée de la Métataï. En Afrique du Sud, la grève continue dans les mines de platine. D'après les estimations, quelques 5000 personnes ont défilé à Pretoria. L'objectif de cette marche pacifique organisée par le syndicat AMCU était de donner une pétition au président Jacob Zuma. Ces mineurs réclament un salaire minimum de 1 200 $. Mais hier, les négociations ont échoué. La grève perdure depuis 6 semaines. Direction l'Ukraine, le président intérimaire Alexander Tchinov a signé un décret annulant le projet de référendum en Crimée pour un rattachement à la Russie, mais les officiels de Crimée soulignent que la consultation aura lieu comme prévu. Pendant ce temps, le comité paralympique national d'Ukraine a déclaré que le pays ne participera pas aux Jeux paralympiques de Sochi si la Russie aggrave le conflit militaire en Crimée. Pour l'instant, la volonté des Ukrainiens, c'est d'être présents à ces Jeux, a-t-il ajouté. Les Jeux paralympiques qui suivent les Jeux d'hiver commence aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain est en Jordanie dans le cadre des efforts visant à forger un accord de paix israélo-palestinien. Selon le département d'État, John Kerry est arrivé ce vendredi à Aqaba sur la mer Rouge où il devait rencontrer le roi Abdallah. Le chef de la diplomatie américaine espère annoncer d'ici fin avril un accord cadre à l'occasion de la clôture de l'actuelle ronde de négociation entre les deux parties. Et puis la campagne électorale s'intensifie en Afghanistan. Le grand frère du président Hamid Karzai, Kayoum Karzai, a confirmé aujourd'hui son soutien à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Zalmay Rasool. C'est, dit-il, dans le but d'unifier l'Afghanistan. Hamid Karzai ne peut pas être candidat à sa réélection et il a déclaré ne soutenir aucun candidat.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'Amérique et vous, votre fenêtre sur la vie ici aux États-Unis. Timothée Donangmaï en votre compagnie dans cette édition. Et nous parlerons des vagues de froid exceptionnelles qu'ont connues les États-Unis cette année et de la manière dont certains membres de la diaspora africaine ont vécu cet hiver particulièrement rigoureux. Et comme d'habitude, vos interventions en direct au 001. Le code des États-Unis 202-619-3140, 001-202-619-3140. Alors nous avons comme invité dans cette émission notre confrère Haruna Maïga, originaire du Mali, qui vit à Baltimore, dans le Maryland, à côté de Washington, ici. Et notre confrère et ancien correspondant Eddie Isango, il est originaire de la RDC, il vit à Lincoln, dans le Nebraska. Et nous avons aussi Mohamedou Dia, originaire du Sénégal, et qui lui étudie à Boston. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Voilà, les États-Unis ont donc connu cet hiver deux vagues de froid inhabituelles qui ont affecté même les États les plus chauds du Sud, comme la Géorgie et la Floride. En janvier, on a beaucoup parlé de ce vortex polaire, ce front d'air froid venu du Nord et qui est descendu plus au Sud. Et pour vous donner une idée des températures enregistrées, il y a eu par exemple moins 26,7 degrés Celsius à Chicago, moins 15,6 à New York. On a enregistré une quinzaine de morts dans le pays et des milliers de vols et de voyages par train annulés. Alors on commence par vous, Haruna Maïga, à Baltimore. Et comment avez-vous vécu cet hiver?
Bonjour, M. Timothée, et merci de m'avoir donné la parole. Vous savez, venant d'un pays sahélien comme le Mali, où la température avoisine les 50 degrés Celsius, ce n'est pas évident que ce grand froid que je vis aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique soit une bonne expérience pour moi.
Et comment ça s'est passé, c'est froid? Est-ce que c'est la première fois que vous vivez ce genre de situation?
Je rentre dans ma troisième année de vie ici aux États-Unis. Et j'avoue que les deux premières années, ça va un tout petit peu. Mais cette année, je vous avoue que vraiment, je n'arrive plus à supporter ce grand froid.
Alors, Eddie Isango, vous êtes à Lincoln, dans le Nebraska, la région du Midwest, où il fait habituellement très froid. Comment ça s'est passé pour vous?
Oh oui, Timothée, merci de m'inviter à votre émission. Il faut dire que cette année, c'est une année exceptionnellement froide par rapport à toutes les autres années que nous avons vécues ici. Moi, je suis à ma quatrième année ici. Même si nous sommes dans une région où il fait généralement froid, cette année, les basses températures étaient parfois insupportables. Nous avons atteint, par exemple, des températures de moins 23 ou 24 degrés Celsius. Pour quelqu'un comme moi, qui est vécu au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale, où il fait aussi chaud. Les températures là-bas sont autour de 40 degrés Celsius parfois. C'est assez difficile, mais c'est beaucoup plus difficile encore pour ceux qui arrivent nouvellement, parce qu'il faut s'adapter et les changements des régions et des climats, si bien que même pour ceux qui sont ici déjà, il y a eu des maladies, de fièvre, des grippes dues à cela. Donc pour quelqu'un qui vient d'arriver, c'est encore beaucoup plus difficile. Timothée.
Mohamadou Dia, vous êtes originaire du Sénégal et vous étudiez à Boston. Comment ça s'est passé de votre côté?
Oui, M. Timothée, merci de votre invitation. Bon, évidemment, ça a été très difficile parce que, ayant grandi au Sénégal, où notre hiver là-bas, en général, ça varie de 25 à 20 degrés Celsius. Et là, à cette température, en général, on a très froid. Donc, ici, quand nous avons des températures qui vont jusqu'à moins 20 degrés, complètement à l'opposé, c'est vraiment difficile. À des moments, on a des maladies comme les pôles et les flous. Donc, c'est pas facile à gérer. Même les amis qu'on a, qui vivent ici, qui ont été ici pendant longtemps, ont des difficultés. Donc, nous aussi, c'est encore un peu pire.
Et la situation est particulièrement compliquée lorsqu'on a des enfants, comme c'est votre cas, Eddy et Haruna. Eddy?
Pour moi, je pourrais dire que mes enfants semblent s'adapter. Mais quand nous sommes arrivés autour de 4 ans, mon petit garçon qui n'avait que quelques mois a failli avoir la bronchite. C'est bien qu'on l'a soigné, mais bon, il s'est adapté. Ce n'est pas... On peut dire qu'ils ne sont pas à l'abri parce que, nous avons des précautions que nous prenons. Ils vont voir le médecin, mais nous avons à tout moment des médicaments anti-tout, anti-grippe que nous leur donnons parce que c'est la saison. Tout le monde, même si vous êtes vacciné, vous n'êtes pas épargné. Vous tombez malade à chaque moment et vous devez prendre des médicaments pour vous soigner. Donc, c'est assez dur pour les Africains qui viennent, pour ceux qui viennent des régions qui sont généralement chaudes. Et l'adaptation ne se fait pas en 2, 3, 4 années. Donc, il faut encore continuer à s'adapter.
Haruna, vous m'avez dit que vous êtes père d'une petite fille de 2 ans qui n'est pas encore en âge d'aller à l'école, mais même dans ce cas-là, la neige pose d'autres problèmes.
Beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que, en fait, j'ai une petite fille, elle aura ses 2 ans le mois prochain, mais c'est extrêmement difficile pour elle. Je prends soin d'elle le matin et ma femme travaille pendant le matin et moi je travaille pendant les après-midi. Et des fois, je suis obligé de rester avec elle toute la journée dans la maison. Et des fois, quand on décide d'aller faire une petite marche, ce n'est pas du tout évident pour une petite fille. Et des fois, nous arrivons et le soir, elle a comment ce qu'on appelle le rhume ici. Et c'est, vous pouvez imaginer, Timothée, vous avez des enfants, une petite fille avec un rhume, elle est là, elle pleure, ce n'est pas du tout évident. Le grand froid, c'est... Pour nous, c'est dur, mais pour les petits-enfants, c'est encore plus dur.
Mohamadou, vous n'avez probablement pas ces problèmes. Vous êtes étudiant à Boston, mais lorsqu'il neige beaucoup, c'est aussi un problème.
Oui, c'est vrai que c'est une situation différente pour moi. Je n'ai pas d'enfants à prendre en charge ici, mais effectivement, quand il neige, c'est difficile de bouger. Il y a souvent l'école nous informe souvent que les cours sont annulés, donc... Il y a beaucoup de rattrapage à faire, mais la plupart aussi, c'est difficile de sortir et de faire ces courses, acheter à manger, des choses comme ça. Et c'est difficile aussi, c'est pas facile.
Alors, Eddy, à ce sujet, est-ce que les magasins dans le Nebraska ferment aussi à l'occasion des grandes chutes de neige? Les gens sont un peu plus habitués à la neige là-bas qu'ici, sur la côte Est.
Oui, même si on est habitué, il y a parfois des temps ou des moments où les activités sont fermées, la plupart d'activités. D'abord, à cause de l'abondance de la neige, ce qui semble opposé à cela, c'est que cette année, même si nous n'avons pas eu beaucoup, beaucoup de neige, il a fait plutôt très froid. Et je me rappelle qu'ici, on a dû fermer, par exemple, les écoles à 2 reprises parce qu'il a fait très froid. Nous avons atteint, comme je l'ai dit précédemment, des températures de moins 24 degrés Celsius. Et à cela, il faut ajouter les vents. En fait, les températures, les basses températures, Nous en sommes habitués ici, mais c'est les vents qui font que même si la température peut être basse comme d'habitude, mais quand il y a les vents froids, la température que vous sentez sur le corps est beaucoup plus que ce que les thermomètres indiquent. Donc, ça peut être moins 24, mais si les vents sont froids et violents, vous pouvez ressentir comme si c'était moins 40 ou moins, même plus.
Oui,
donc, les écoles ont dû fermer à quelques fois pour cela.
Voilà. Alors, nous allons prendre un auditeur. Il s'agit de Brian Kouadio de Côte d'Ivoire. Bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur, et bonsoir à tous vos auditeurs.
Bonsoir.
Oui. Moi, mon commentaire sur ce sujet, je dirais que c'est une punition que Dieu est en train d'infliger à l'Amérique. Mais malheureusement, il y a des personnes innocentes, comme les Africains et bien d'autres Américains aussi, qui doivent aussi subir le même sort que les autres. C'est parce que, avec toutes les actions menées par l'Amérique, avec à sa tête Barack Obama, toutes les décisions prises à l'encontre des pays en position de faiblesse, et que ces pays-là aussi n'arrivent pas à se défendre, aujourd'hui, l'Amérique est en train de payer pour tout ce qu'elle a pu faire à tous ces pays-là. C'est ce que je pense.
Mais c'est votre avis, peut-être, mais les catastrophes naturelles ne sont pas une exclusivité des États-Unis. On a des inondations, on a eu les graves inondations aux Philippines, on a eu le tremblement de terre en Haïti. C'est pas une.
En Philippines, vous savez ce qui se passe là-bas. Vous ne savez pas combien de fois tout ce qui est atteint aux bonnes mœurs. Vous ne savez pas combien de fois c'est malheureux de voir que des personnes, la prostitution, tout ce qui est homosexualité a pris de l'ampleur vraiment dans ce pays-là.
Oui, mais qu'en est-il de la sécheresse que connaît le Sahel en Afrique? C'est presque chaque année qu'on lance l'alerte à la famine, qu'on appelle à se mobiliser pour gérer les ressources en céréales. Comment vous expliquez cela?
Aujourd'hui, au Niger, c'est vrai, on parle du Sahel qui a un problème là-bas. Mais moi, je vous dis que aujourd'hui, l'Israël a montré combien de fois ils sont très, 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 très compétents dans cette histoire de pouvoir produire même dans le désert. Et donc, si le Sahel vraiment demandait l'expertise de l'Israël, je vous assure qu'aujourd'hui, ce pays-là ne serait pas en train de toujours demander de quoi manger.
Merci.
À la communauté internationale.
Oui, merci, Brian Kouadio. Nous n'en sommes pas encore là. Et puis, ce n'est pas tout à fait l'objet de cette émission. Nous ne sommes ni leaders religieux ni autres. Donc, nous ne sommes pas vraiment en position de vous répondre sur ce coup-là. Alors, Haruna, pour revenir au froid exceptionnel qu'ont connu les États-Unis cette année. Alors, parlez-nous d'une journée habituelle en temps pareil. Comment ça se passe? Vous sortez de la maison, les véhicules qui sont dehors, est-ce que c'est facile à démarrer? Comment vous vous organisez pour commencer une journée en temps pareil?
En temps pareil, juste une anecdote. Le grand froid que nous avons connu cette année, il y a 3 jours de cela, nous avons connu un grand neige. Il a vraiment neigé ici. Et je vous avoue que dans mon parking, j'ai nettoyé à peu près 3 voitures avant de retrouver la mienne. Donc, c'est pas du tout facile. Il y a un enfant qui m'attend à l'intérieur de la maison. Je suis obligé de faire vite, la prendre, l'amener à la bibliothèque pour qu'elle puisse jouer avec d'autres enfants. Je vous avoue que j'ai nettoyé 3 voitures avant de retrouver la mienne. Ce n'est pas du tout facile.
Eddie Sango?
Il faut dire que c'est pas facile parce que la plupart des temps, les gens hésitent de sortir. Parce que d'abord, les routes, s'il y a beaucoup de neige et que les activités sont fermées, les routes sont glissantes. Et parfois, il y a du verglas sur la route. Et moi-même personnellement, j'ai eu à vivre cela par 2 fois. J'ai travaillé à une ville voisine, donc je devais faire à peu près 100 miles. Donc,
À peu près 160 kilomètres, à peu près.
Oui, oui. Quand vous allez sur l'autoroute, c'est facile de glisser, de sortir. Personnellement, j'ai eu à connaître cela, donc je suis sorti de la route, de l'autoroute, par deux fois. Dieu m'a gardé. Donc, c'est cela. La plus grande difficulté, c'est la circulation qui devient difficile avec la neige. Et on reste à la maison.
Et en fait, dans beaucoup de cas, les autorités appellent les gens à rester à la maison et à ne sortir que si c'est vraiment une urgence.
Oui, c'est cela. Même s'il y a des services pour nettoyer, mais il y a des messages, des communiqués qui demandent aux citoyens de rester à la maison et de ne sortir que quand il y a une urgence. Mais chez nous, par exemple, dans cet état où je suis, nous n'avons pas connu des cas d'interruption de courant. Bon, je me rappelle qu'il y a eu un quartier où il y a eu cela, mais dans d'autres quartiers, dans d'autres hôpitaux, dans d'autres états, il y a parfois coupure de courant pendant des jours parce que les câbles de transmission d'électricité parfois gèlent ou rompent. C'est comme ça que les quartiers entiers parfois sont privés d'électricité. Vous vous imaginez sans électricité. Donc, si vous n'avez pas des systèmes de chauffage avec gaz, vous devez souffrir. J'ai vu des reportages ici des gens qui quittaient leur maison pour aller dans des maisons voisines ou chez des connaissances pour y passer la nuit ou même des semaines, une semaine ou deux semaines, en attendant que le courant soit rétabli.
Parce qu'il s'agit là, Eddie, d'une question de vie et de mort. On risque de mourir de froid dans ces conditions-là.
Bien sûr que oui. Je me rappelle que j'ai suivi des reportages comme ça. Il y a eu des cas de décès. Vous l'avez dit en début de mission. Il y a eu des cas d'émission. Il y a eu plutôt des cas de décès dans certains états. Et même ici, je crois qu'il y a eu un cas. Il y a un enfant, par exemple, qui marchait, pas ici dans cet état, mais dans un autre état à Minnesota, que les parents ont laissé à l'extérieur. Bon, finalement, on l'a retrouvé mort et sur la neige, c'est cela, malheureusement.
Mais donc, c'est un temps pendant lequel il faut faire exceptionnellement attention. Mohamedou, est-ce que vous avez une expérience similaire, des anecdotes par rapport à cette vague de froid que connaissent les États-Unis?
Oui, c'est vrai que le déplacement est difficile aussi. Bon, moi, je ne conduis pas, je n'ai pas de voiture, donc il y a certains problèmes que je n'ai pas. Mais en prenant le train aussi, l'une des choses que nous, élèves, on privilégie, c'est la distance par rapport à où on vit et à la station. Parce que durant cette période où il fait froid, c'est pas facile de marcher certaines longues distances ou bien d'avoir à attendre le bus dans le froid pour pouvoir aller à l'école. Donc, j'ai eu la chance d'avoir la station qui est à peu près à 5 minutes de chez moi. Donc, j'ai pas trop de difficultés, à part parfois, comme certains le disent, il y a beaucoup de verglas et faut juste faire attention pour ne pas tomber. Mais en général, c'est le seul problème qu'on a à avoir à attendre pour un bus dans le froid ou bien avoir à marcher pour prendre son train à la station.
L'Amérique, vous consacrez ce soir à quelques réactions d'Africains des États-Unis à cette vague de froid exceptionnelle que connaît le pays depuis le mois de janvier. Nous avons maintenant au téléphone notre ami Gaël du Bénin. Bonsoir Gaël.
Oui, bonsoir.
Voilà, allez-y.
Moi, je pense que c'est le président Obama qui a tiré la colère de Dieu sur lui. Parce que comment comprendre qu'il aime s'ingérer dans les affaires de Sudan, tout ce qui ne le concerne pas. Je prends par exemple le cas de la Russie. Comment comprendre que le président Obama peut oser geler les avoirs des Russes qui sont en Amérique. En plus,
mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça?
Oui, je pense très bien. Je pense que c'est le président Obama même qui a tiré la colère de Dieu sur lui.
Bon, ben je ne sais pas trop comment vous répondre à cette prise de position. En tout cas, c'est la situation que nous vivons ici. Et il y a sûrement ici aux États-Unis des gens qui vont à l'église, qui vont à la mosquée, qui vont au temple. Et donc, votre position...
Qui a attiré la colère de Dieu, c'est lui. Bah, sinon, comment comprendre qu'il peut imposer aux pays africains de faire le mariage homosexuel?
Bon, mais c'est pas tout à fait le thème de cette émission. J'espère qu'on aura une autre occasion de débattre de la question de l'homosexualité ici aux États-Unis et dans les rapports entre les États-Unis et les pays africains. Et notre ami Eddie Sango est donc à Lincoln, dans le Nebraska. Alors, on a parlé des coupures d'électricité, des interdictions de circuler. Eh bien, tout cela affecte le travail, l'emploi, les gens qui sont au chômage. Cela complique davantage leur situation.
Oui, évidemment. J'ai vu en fait, des rapports qui disent que les taux de chômage a un peu stagné durant cette période. C'est justement suite à ces grands froids. Bon, quand il fait froid, les gens ne circulent pas trop, ils ne vont pas chercher le travail. Bon, certains restent à la maison, la plupart de, en fait, beaucoup de gens en tout cas restent à la maison. Mais il y a aussi autre chose. Il n'y a pas que les secteurs de l'emploi, mais il y a aussi d'autres secteurs qui sont parfois paralysés. Il n'y a pas que les écoles, il y a par exemple les églises. Je vois qu'il y a, quand il y a les grands froids ou quand il y a beaucoup de neige, même les églises passent des communiqués pour dire que suite à l'abondance de neige ou suite au froid, les cultes de ce soir n'aura pas lieu. Donc, c'est un peu ça la situation en général. Et parfois déstabilisé. Il faut dire aussi que dans l'état où je suis, il y a les prix, par exemple, du carburant qui a augmenté depuis les grands froids ici. Bon, le froid n'est pas le seul élément qui entre en compte, mais c'est quand même un élément qui a joué aussi.
Haruna Maiga, on a donc parlé de ces situations pratiquement de crise lorsque des grosses chutes de neige sont enregistrées. Il faut dire que les gens ne sont pas quand même abandonnés à leur triste sort. Les autorités locales essaient d'intervenir, par exemple, pour évacuer les personnes âgées, les personnes les plus vulnérables vers des abris de secours.
Oui, tout à fait. Nous, Dieu merci, nous n'avons pas connu des situations de ce genre ici à Baltimore. Je ne me rappelle pas avoir, perdu l'électricité une seule fois ici à la maison. Et pratiquement à Baltimore, quand il fait froid, le grand froid, pratiquement tout est laissé. Vous sortez dans la rue, vous ne voyez personne. Les gens n'ont pas envie d'aller au travail. Donc, c'est vraiment un grand problème.
Voilà, mais il faut dire que ce n'est pas tout le monde ici aux États-Unis qui se plaint de ces grosses chutes de neige. Il y a les stations de ski qui sont bien évidemment aux anges parce que plus il y a de la neige, plus ça leur permet de mener leurs activités pendant un temps beaucoup plus long. Alors, Mohamedou, est-ce que vous avez tenté des expériences de ski peut-être?
Non, en fait, moi, je suis beaucoup plus un joueur de foot. En Afrique, je pense que le foot est beaucoup plus populaire que le ski, donc... c'est des sports que je ne pense pas que je vais tenter ici.
Mais peut-être à votre présence ici aux États-Unis, vous pouvez peut-être vous initier au ski et qui sait, un jour représenter le Sénégal au JO d'hiver, par exemple.
Ah non, je ne pense pas que le Sénégal ait des chances à gagner au JO d'hiver de ski. Mais bon, de toute façon, il y a des sports comme le basket ou bien d'autres sports comme le football américain que j'aime bien parmi les sports américains, mais le ski, ce n'est vraiment pas mon truc.
Voilà, c'est sur cette note que s'achève cette édition de l'Amérique et vous consacrez à ces vagues de froid exceptionnelles qu'ont connues les États-Unis cette année. Et nous avions donc quelques membres de la diaspora africaine des États-Unis pour réagir à ce phénomène. Merci à notre confrère Aruna Maïga de Baltimore. Merci à notre ami et confrère Eddie Sango à Lincoln dans le Nebraska. Merci à Mohamedou Dia, étudiant à Boston, sur la côte est, ici. Et merci à tous nos auditeurs. Au revoir et à très prochainement dans l'Amérique et vous, votre fenêtre sur la vie ici aux États-Unis.